Bonjour mes frères et mes sœurs. Savez-vous prendre des décisions sages? Comment prenez-vous vos décisions? Quel est le choix que vous faites? Quelle est la façon dont vous pensez? Souvent, lorsqu'on fait un choix, on a toujours évidemment devant soi ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. La plupart du temps, nous choisissons la voie facile. Mais la voie facile est-elle toujours la meilleure, la bonne? Parfois, nous trouvons une solution difficile, alors que si on se débarrassait de soi-même, la solution serait beaucoup plus facile, la décision serait beaucoup plus facile. Autrement dit, dans le choix que vous faites, quelle est la voie que suivez? Comment prenez-vous vos décisions? Quel est votre critère? Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, la vie se compose de défis, des choix, des décisions, parfois difficiles, parfois faciles. Des défis qui sont parfois agréables et parfois pas du tout. Voilà pourquoi je vous pose la question, comment prenez-vous vos décisions? Prenez-vous toujours la voie facile? Prenez-vous toujours ce qui vous plaît? Prenez-vous toujours une décision qui peut-être est agréable à vous, mais non pas à ceux qui sont autour de vous? Savez-vous que l'un des plus grands privilèges, je dirais même le plus grand privilège que Dieu nous donne, c'est notre liberté. Le libre arbitre, même les décisions que nous prenons, Dieu nous laisse libres dans ce choix. Autrement dit, aujourd'hui, je peux tout quitter. Ma femme, mes enfants, mes amis et m'en aller. Autrement, je peux aussi rester comme je suis, être heureux ou malheureux. D'autre part, je peux aussi faire des efforts pour changer. Mais pour faire des efforts pour changer, il faut que je prenne des décisions. Ça, c'est la base. Autrement dit, et je répète, prendre des décisions est un privilège. De même, avoir libre arbitre est un privilège. Voilà pourquoi je répète, le plus grand don que Dieu nous ait donné, c'est notre liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté de faire des choses à notre façon ou à sa façon. La vie, je répète, est une suite de choix, est une suite de défis. Et en même temps, c'est une question de cause à effet. Et c'est normal. Si je laisse tomber quelque chose, la chose tombe. Si je vais au-devant d'un accident, eh bien, vous comprenez. La suite. Cause et effet, c'est quelque chose que tous peuvent comprendre, mais peu de gens agissent ou réagissent avec intelligence. Plus on est mûr, plus on a l'expérience, plus on réfléchit avant de prendre une décision, c'est normal. D'une façon générale, les enfants ne prennent pas le temps pour réfléchir. Ils essaient de faire des choses. Il fait des choses à la légère, ensuite, évidemment, pour eux, ce n'est pas très grave. Bon, lorsqu'il commence à un peu prendre de l'âge, parce qu'il commence à voir les conséquences, il réfléchit un peu plus. Ce qui est triste, voyez-vous, la plupart du temps, les grandes personnes, les adultes, agissent de la même façon. Autrement dit, ils prennent des décisions à la légère. Et ensuite, ils regrettent les conséquences. Ce sont des simples bases en ce qui concerne la vie. Mais la plupart du temps, mes frères et mes sœurs, c'est ainsi que nous nous comportons. Comme des enfants, nous savons quelque chose, mais nous nous laissons aller à nos émotions, à notre façon de raisonner, à nos sentiments charnels. Je sais, par expérience, qu'il faut passer par quelque chose pour apprendre une leçon, je sais. Mais parfois, ce serait tellement plus facile, tellement plus fort, tellement plus beau, si on pouvait apprendre quelque chose sans nécessairement passer par la souffrance. En ce qui concerne les paroles que vous prononcez, la même chose. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez dire ou bien vous taire. On dit en français, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Il y a de la sagesse dans cette déclaration. Souvent, nous parlons alors que nous devrions de nous taire. Souvent, nous parlons, nous disons des choses et que nous regrettons plus tard. Avez-vous jamais pris la Bible pour voir combien de fois la Bible et Dieu dans la Bible nous dit ce qu'il faut dire, comment il faut dire et aussi comment il faut se taire et quand se taire. Ça, c'est le secret. Lisez les proverbes, vous verrez. Souvent, dans les proverbes, Dieu nous dit que si nous fermons la bouche, nous contrôlons notre langue, nous sommes considérés comme intelligents. Ce n'est pas question d'être considéré ou non, mais c'est pour votre bien en même temps. Laissez-moi vous mettre devant un défi. Les paroles que vous prononcez, une fois que vous les avez prononcées, êtes-vous souvent dans le doute et vous vous demandez, je me demande si j'ai vraiment dit ce qu'il fallait dire. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit? Est-ce que vous regrettez vos paroles? Donc, vous avez fait un mauvais choix. C'est la même chose, c'est le même principe, voyez-vous. Savez-vous qu'en principe, lorsque vous n'avez pas encore prononcé quelque chose, ce quelque chose est entre vous et vous-même, un point, c'est tout, personne ne le sait. Mais une fois que vous avez ouvert votre bouche, voilà que vous êtes l'esclave. Autrement dit, comme on dit, les paroles que vous n'avez pas prononcées, vous en êtes encore maître. Et oui, vous êtes maître, parce que ce n'est pas sorti de votre bouche. Mais une fois que ces paroles sont prononcées, sont sorties, alors quoi? Vous en êtes les esclaves. Réfléchissez bien. Choisir dans la conversation, choisir dans les décisions, c'est ça le secret. Et notre base, notre manuel d'instruction, c'est la Bible. La Bible nous dit comment choisir, comment penser, comment prendre des décisions. Vous savez, prenez des mots simples comme amour. C'est quoi l'amour? Vous demandez à 10 personnes différentes, selon leur âge, évidemment, la réponse sera différente. Mais c'est quoi l'amour véritable? Eh bien, le Dieu de la Bible nous donne la réponse. Regardez voir. Voyez comment Dieu définit l'amour. Et comparez cela à votre façon de définir et aussi à votre façon de réagir. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Nous lisons, « Et cet amour consiste, c'est la Bible qui parle, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Avez-vous jamais pensé à définir l'amour ainsi? Que l'amour, c'est ce que le Christ a fait pour vous et pour moi, et qu'il a donné sa vie, et que c'est cet amour-là, vraiment, qui est la base de tout ce qui est vraiment, je dirais, dévouement, dévotion, vrai amour. Ce sont des choses auxquelles nous ne pensons pas souvent. Mais c'est ici la base, vraiment, de la connaissance de toutes choses. Réfléchissez, je vous prie. Le Créateur suprême, le Christ, qui peut tout faire et qui fait, qui est capable de faire toutes choses, qui nous a créés, vous et moi, ce Créateur suprême a choisi de son propre gré, je dis bien de son propre gré, a donné sa vie pour vous et pour moi. Qui suis-je, moi? Rien. Qui êtes-vous? À peu près la même chose. Autrement dit, humainement parlant, nous ne sommes rien. Et voilà que celui qui est tout, qui peut tout, il a donné sa vie pour vous et pour moi, pour des riens, pour ainsi dire. Il avait la liberté de choisir. Il avait la liberté de décider, non, je ne veux pas aller donner ma vie pour vous ou pour moi. Mais il a pris une décision. Pourquoi? Pour l'amour que je viens vous citer. Parce qu'il veut donner, il veut partager, il ne veut pas être seul à jouir de cette, je dirais, potentialité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a donné sa vie afin que nous puissions nous avoir ce que nous ne pourrions jamais espérer en nous-mêmes. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de prendre une décision. Prendre une décision demande des efforts dans ce sens que vous devez vraiment penser et vous dire, est-ce la bonne chose pour tout le monde ou seulement pour moi-même? Est-ce vraiment pour servir ou bien pour me servir moi-même? Comme je dis, le Christ avait le choix devant lui. Il aurait pu dire non, je ne vais pas. Mais une fois la décision prise, alors il faut avoir le caractère de suivre les conséquences ou bien de subir les conséquences même. Et c'est là, justement, les difficultés commencent. Parfois, c'est trop tard. Parfois, vous ne pouvez pas changer. Vous laissez tomber un verre, le verre se casse, ce verre est cassé. On ne peut pas mettre les morceaux ensemble. De la même façon, voyez-vous, lorsqu'une décision est prise, parfois on peut changer, mais parfois il y a des cicatrices. Et ces cicatrices peuvent être difficiles à effacer, et même, je dirais, parfois d'éliminer totalement. Alors, une fois la décision prise, une fois le choix est fait, vous devez avoir le caractère de choisir à rester fidèle à vos engagements, à faire ce que vous devez faire, et en toute chose, à être sûr que ce que vous faites, ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez choisi de faire, c'est conforme à la volonté divine. Dans ce cas-là, vous êtes un peu plus sûr de vous-même. Souvent, les gens regrettent le passé. Le passé, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas le faire revenir en arrière ou bien en avant. Ce n'est pas possible. Hier, c'est fini. Je dis souvent, vous savez, j'ai étudié ce qu'on appelle la métaphysique. C'est intéressant. Il y a de belles choses dans la métaphysique. On vous donne comment vraiment être sûr de vous-même. Et en quelque sorte, c'est vrai. Je ne peux pas vivre hier. C'est fini. Je ne peux pas reculer les aiguilles d'une montre. Non, ce n'est pas possible. Et demain, écoutez, demain, je ne suis pas encore là. Je ne peux pas dire d'avance ce qui va se passer demain. Donc, les décisions que je prends sont pour aujourd'hui seules. Et les engagements que je prends, il faut que je sois sûr que je vais les respecter. Autrement dit, si vous y pensez de cette façon-là, le seul moment où vous vivez, c'est le présent. Hier, c'est fini. Demain, ce n'est pas encore là. Vous êtes seulement vivant en ce moment-ci. Donc, si vous réfléchissez de cette façon-là, voyez-vous, et si vous savez qu'on ne peut pas reculer les aiguilles d'une montre, dans ce cas-là, soyez sûr que les décisions que vous prenez sont des décisions que vous avez choisies et qu'elles sont bonnes en ce qui concerne Dieu et que, d'une façon générale, vous êtes capable de maintenir votre caractère, votre morale, votre bonne attitude, parce que les décisions prises sont bonnes. Alors, avez-vous jamais pris le temps de réfléchir? Quelle est la plus grande décision que vous prenez chaque jour? Vous direz, je ne sais pas, d'accord, vous avez raison. D'une façon générale, nous prenons des décisions, nous faisons des choix chaque jour sans y penser. Et c'est normal, c'est humain. Mais s'il s'agit d'une décision grave, comme par exemple d'un métier, comme par exemple d'un mariage, comme par exemple d'un déménagement, comme par exemple choisir une religion, alors là, il faut faire attention parce que ça peut affecter toute votre vie et ça peut changer votre attitude et tout ce que vous voulez. Parce que là, ce sont des choses que vous ne pouvez pas toujours changer une fois la décision prise. Mais quelle est, dans votre vie, quel que soit votre âge, ça n'a pas d'importance, la décision que vous avez prise, d'une façon générale, qui guide votre vie? Comme je dis, ça peut être un métier, un mariage, un déménagement, un voyage, je ne sais pas. De toute façon, y a-t-il maintenant, actuellement, en ce moment-ci, dans votre vie, une décision que vous devez prendre et au sujet de laquelle vous n'êtes pas sûr? Comment pourriez-vous résoudre ce problème? La vie n'est pas toujours facile, je répète. Vous avez toujours des amis qui vous conseillent, d'accord, mais les amis qui vous conseillent ne sont pas toujours, mettons, sûrs d'eux-mêmes. Il n'y a qu'une seule personne, qu'un seul être qui peut vous donner à 100% une garantie absolue qu'il peut vous guider dans la décision que vous prendrez. Et cet être, c'est le Christ. Donc, adressez-vous au Christ. Mettez-vous à genoux. Jeûnez s'il le faut. Et ensuite, exposez-lui les difficultés et le problème, ou encore vos désirs. Laissez-le vous guider. Il vous guidera. Ça ne sera pas toujours comme vous le voudriez. Nous sommes tous trop impatients. Nous voudrions une réponse maintenant. Vous savez, j'ai vu dans ma vie, et j'ai même fait l'expérience, le succès. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez aller vers quelque chose, et vous êtes tout prêt à vous abandonner parce que vous n'avez pas encore réussi. Le moment où vous abandonnez, c'est l'échec. La seule façon de réussir, c'est continuer. Donc, dans tout ce que vous faites, soyez sûr que vous continuez à prendre le chemin que vous avez pris, si c'est le bon chemin. N'abandonnez pas, ne soyez pas victime de vos doutes, mais d'autre part, si c'est le mauvais chemin, soyez sûr que vous l'abandonniez dès que possible. Voilà comment prendre des décisions, comment faire des choix, comment distinguer entre la réussite, le succès et l'échec. Ce sont des choses, si vous voulez, tout à fait banal dans ce sens que ce que je dis, ce n'est pas philosophique. Un enfant même pourrait comprendre. Mais comme l'apôtre Paul dit, un enfant raisonne à sa façon. Il faut qu'il mûrisse pour voir la différence entre la façon mûre de penser et la façon enfantine de penser. Alors, maintenant, je vous parle en tant qu'adulte. Certes, il se peut que vous soyez enfant alors que vous m'écoutez, d'accord, mais je m'adresse maintenant à vous en tant qu'adulte. Quelle est la plus grande décision, la plus importante, que vous puissiez prendre dans votre vie? Eh bien, la réponse est simple. Si vous êtes membre de l'Église de Dieu, si vous êtes appelé par Dieu, et si vous avez vraiment fait ce que l'apôtre Pierre a dit, il dit « repentez-vous », acte 38 que nous connaissons par cœur tous dans l'Église, « repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Baptisé, c'est quoi baptisé? Être plongé dans l'eau, agir selon les instructions divines. Donc, baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour quelle raison nous faisons-nous baptiser? La réponse est simple, pour le pardon de nos péchés. Il dit, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà! Dès que vous avez reçu le don du Saint-Esprit, vous êtes une créature différente. Dès ce moment-là, dans votre vie, entre quelque chose de nouveau, une puissance nouvelle. Et cette puissance divine qui vous dirige mieux dans vos décisions, dans les décisions que vous prenez, dans le chemin que vous suivez, ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez pris la décision d'aller de l'avant, et que vous avez pris ce que Dieu vous dit, l'engagement d'être, de lui être à lui, vous êtes fait baptiser, vous avez reçu le Saint-Esprit. Dès ce moment-là, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de recul. Vous ne pouvez plus retourner en arrière, parce que vous êtes dans un chemin sans issue, dans ce sens que ou bien vous allez tout droit, il y a une solution, il y a une issue, mais vous ne pouvez pas reculer. Vous ne pouvez pas regretter. Voilà pourquoi je vous dis, lorsqu'il s'agit de la décision la plus importante de votre vie, Sachez que si vous êtes membre de l'Église, si vous avez été baptisé, si vous avez reçu le Saint-Esprit, dès ce moment-là, vous savez quoi? Vous avez dépassé le point de non-retour. Non, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos regrets, quelles que soient les tribulations même, quels que soient les défis de la vie, vous êtes sur un chemin sans retour. Voilà pourquoi il est important de conseiller et d'examiner toutes choses avant de se faire baptiser. Un baptême, ce n'est pas quelque chose de léger qu'il faut prendre, pas du tout. Mais une fois réfléchi, une fois vraiment pris la bonne décision, dans ce cas-là, je répète, vous ne devez plus avoir aucune raison, quelle qu'elle soit, pour dire que non, je regrette, je ne vais plus être dans l'Église. Et pourtant, c'est arrivé, il y a des gens qui ont pris cet engagement et ensuite qui sont partis. Il y a quelque chose là qui ne fait pas du sens. Ou bien ils n'avaient pas compris, ou bien ils se laissent aller à leurs sentiments charnels, Dieu se les juge. La Bible répond à tous nos besoins. Regardez comment l'apôtre Jean explique ce que je viens de vous dire. Comme je dis souvent, nous prenons des décisions à la légère. Mais le baptême n'est pas une décision à prendre à la légère. Pas du tout. Voilà pourquoi, une fois que vous avez vraiment, vraiment, vraiment réfléchi, dès ce moment-là, vous n'avez aucune excuse de regretter. Aucune. Une maladie, un accident, une perte, des catastrophes, rien ne doit vous faire regretter votre décision d'avoir pris la décision de suivre Dieu, de recevoir son Saint-Esprit. Voilà pourquoi je répète, l'apôtre Jean a écrit Apocalypse chapitre 3, verset 3, « Rappelle-toi, dit-il, donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. » Voilà. Donc, voyez-vous, lorsque vous avez des moments difficiles, si vous êtes dans l'Église, si vous avez reçu le Saint-Esprit, eh bien, vous voyez des difficultés devant vous, les conséquences peut-être des décisions prises, mais quelles que soient les circonstances, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, car Dieu vous guidera. Il se peut que vous ayez pris une mauvaise décision, mais Dieu vous guidera vers la bonne, sauf que vous devez subir les conséquences des choses que vous avez commises, et ainsi de suite. Le Christ vous aide. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas vous qui avez choisi le Christ, c'est le Christ qui vous a choisi. Notez-le, Jean chapitre 15, verset 16. C'est dans la Bible. Le Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, voyez-vous, c'est le Christ qui parle, mais moi, je vous ai choisi. Certes, il a dit ceci à ses apôtres, je sais, mais nous sommes ses disciples. Nous pouvons et nous devons marcher dans la même direction. Donc, le Christ nous a appelés, vous a appelés à comprendre cette vérité, ce que je vous dis maintenant. Une fois que vous avez cette vérité, alors sachez que le Christ vous a donné la puissance, le pouvoir de continuer dans le bon chemin, quelles que soient les circonstances. Et le Christ dit, Jean 15, verset 16, « Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Voilà pourquoi nous sommes appelés. Nous devons porter du fruit, du bon fruit. Et ce bon fruit dépend des décisions que vous prenez, du choix ou des choix que vous faites. Et que votre fruit demeure, dit-il, afin que ce que vous demanderez, notez cela, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Quelle promesse! Alors, là, il s'agit d'une promesse et le Christ ne ment pas. Donc, si vous faites ce qu'il vous dit, vous demanderez au Christ ce dont vous avez besoin. Je dis bien ce dont vous avez besoin et Dieu le Père vous l'accordera. Vous savez, Dieu le Père a aussi sa part dans votre appel. Le Christ a dit, Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Voyez-vous, les deux travaillent ensemble. Et je le ressusciterai au dernier jour. Comprenez-vous cela? Nous avons été appelés pour une mission. Et lorsque nous accomplissons cette mission avec succès, il y a une récompense. Cette récompense, nous la recevrons au dernier jour lorsque nous serons ressuscités. Et c'est Dieu le Père qui nous ressuscite afin que nous puissions être membres éternels de sa famille divine. Voyez-vous, c'est ça. Voilà la récompense que le Christ nous montre dans Jean 6, verset 44. Notez cette promesse de la vie éternelle. Voilà pourquoi je dis, rien ne doit vous empêcher d'arriver jusqu'au bout, une fois que vous avez fait le bon choix. Certes, je parle maintenant du baptême de la vie éternelle, je sais, mais ce même principe s'applique dans les autres décisions que vous prenez. Réfléchissez, pensez, réagissez, seulement ne soyez pas en hâte de prendre une décision, de faire un choix, parce qu'une fois la décision prise, comme je dis, il y a toujours des conséquences, toujours des cicatrices. Certes, nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits, nous ferons toujours des fautes, je sais. Je parle maintenant des choses qui soient importantes, des choses qui aient une conséquence dans notre vie. Voilà pourquoi, avant de prendre une décision importante, adressez-vous à Dieu. Dieu, c'est notre Père. Le Christ, c'est notre Sauveur. Nous sommes membres, une fois baptisés, du corps du Christ. Car le corps du Christ, c'est l'Église. Donc, nous recevons l'Esprit du Christ, nous recevons en nous la force dont nous avons besoin. Et dès ce moment-là, il y a un lien entre lui et nous, et nous ne sommes plus à nous-mêmes. L'apôtre Paul a dit très clairement que lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes en quelque sorte les esclaves du Christ. Et pourtant, être esclave du Christ est une garantie de liberté. Eh oui, parce que le Christ nous protège de tout ce qui est mal ou de mauvais. Le Christ nous donne la force de continuer dans la bonne voie. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, une fois que nous sommes membres du Christ, du corps du Christ, dès ce moment-là, voyez-vous, c'est lui qui décide, c'est lui qui nous guide. Prenez le corps physique. Eh bien, voyez-vous, vous, moi, nous avons plusieurs membres dans notre corps, comme il y en a le cas en ce qui concerne le corps du Christ ou bien l'Église. Dans l'Église, il y a des fonctions. Dans l'Église, il y a des responsabilités. De même, dans notre corps physique, nous avons des membres qui ont des responsabilités différentes. Les yeux ne font pas ce que les oreilles font. La bouche ne fait pas ce que le nez fait. Les pieds, les jambes, ainsi de suite. Donc, chaque membre dans un corps a des responsabilités particulières. Un membre ne peut pas prendre les responsabilités pour un autre membre. De la même façon, dans l'Église de Dieu, nous avons des responsabilités. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas vous comparer avec les autres. Non, soyez content de ce que vous avez. Vous avez une petite partie, ou bien une petite responsabilité, ou bien quelque chose de très petit, mettons, à assumer dans l'Église. Que ce soit votre âge, que ce soit vos responses, votre éducation, ça n'a pas d'importance. Quel que soit le cas, si vous avez une part à jouer dans l'Église, et vous l'avez toujours, dans ce cas-là, faites votre part sans regretter, sans jalouser, sans dire « Oh, j'aurais voulu avoir plus ». Non, parce que voyez-vous, Dieu qui est juste, Dieu qui ne ment pas, Dieu qui sait tout, vous a choisi parce que vous êtes vous et non pas moi. Dieu vous a choisi parce que vous, vous pouvez faire ce qu'il attend de vous. Et il vous a donné la force pour pouvoir l'accomplir. Notez-le, Matthieu 25, la parabole des talents. Le Christ se compare à un homme de haute naissance et dit, il en sera dit comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, vous, moi, et leur remit ses biens, donc les talents que nous avons. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, un au troisième. Chacun, regardez-moi cette, je dirais, condition. Chacun selon sa capacité. Voilà. Donc, ne dites pas, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de responsabilité? D'abord, faites ce que vous avez en ce qui concerne de responsabilité, et alors vous saurez pourquoi le Christ vous a donné deux talents, cinq talents, je ne sais pas. Lisez le reste de cette parabole. Vous verrez comment le Christ a récompensé. À peu près la même idée se répète dans Luc chapitre 19, verset 11, dans une parabole qui peut presque être comparée à celle que je viens de vous donner. Luc chapitre 19, verset 11. Là, il est question de l'homme de haute naissance. Il dit, verset 12, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Ça, c'est la mort du Christ lorsqu'il est allé au ciel et qu'il est revenu. Donc, ici, voyez-vous, Luc 19, verset 12, nous voyons un homme de haute naissance qui s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité, le Christ reviendra avec toute l'autorité royale, et ensuite donc revenir sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appela ses serviteurs, il a 10 serviteurs, il donne une mine à chaque serviteur, et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Qu'est-ce qui se passe? Le Christ reviendra. Ici, nous voyons au verset 14, au verset 15 plus tôt, lorsque le Christ, l'homme de haute naissance, revient, il veut savoir comment les serviteurs ont fait valoir ses talents. Le premier vient, verset 16, le Seigneur, ta mine a rapporté des mines. Voilà, un serviteur qui avait une seule mine, qui avait une seule mine qu'il avait reçue, et cette mine a rapporté des mines. Mais comment? Il a travaillé, il a pris de bonnes décisions, il a fait de bons choix, il s'est sacrifié. Donc, voyez-vous, il a fait quelque chose. Et le Christ lui a dit, verset 17, « C'est bien, bon serviteur, dit-il, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Allez voir cette récompense. Le second vient, verset 18, Matthieu 19, et sa mine, à lui, avait rapporté 5 autres. La même chose, le Christ le récompense en disant, « Toi aussi, donc, sois établi sur 5 villes. » Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, souvent, pas souvent peut-être, je dirais, de temps en temps, notre attitude. Verset 20. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine. » Autrement dit, vous avez reçu quelque chose, vous n'avez rien fait, vous le retournez au Christ. En disant, écoute, merci, c'est très gentil, mais je te le rends. Pourquoi? Il dit, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Tiens, vous avez été prudent, au moins vous avez conservé. Mais pourquoi? Parce que vous avez une seule mine. Quelle a été votre attitude? Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose? Verset 21. Et voilà notre caractère. Nous avons peur de faire quelque chose. Nous ne pensons pas que nous pouvons réussir. Il dit, verset 21, « J'avais peur de toi. » Mais pourquoi avoir peur de Christ? Parce que tu es un homme sévère. Où est-ce que vous trouvez dans la Bible que Dieu est sévère? Dieu est sévère lorsque nous détournons de lui. Mais Dieu n'est jamais sévère lorsque nous faisons sa volonté. Il dit, également les excuses qu'il donne, c'est tout à fait ridicule. Il dit, tu prends ce que tu n'as pas disposé. Et qu'est-ce qu'on voulait dire? Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Écoutez, ce sont des excuses. Voilà notre problème à nous tous. Nous autres humains, nous trouvons, nous cherchons des excuses. Dans la vie courante, et aussi en ce qui concerne nos rapports, dans nos rapports avec le Christ. Non, il avait tort. Quelle a été la réponse du Christ? Il prend donc la même parole que le mauvais serviteur a prononcée. Il dit, tu savais que je suis un homme sévère, verset 22, etc. Il dit, pourquoi donc n'as-tu même pas mis mon argent dans une banque? Quand on m'a dit, fais quelque chose. Souvent, mes frères et mes sœurs ne sont pas paresseux. Nous ne pensons pas être paresseux, oh non. Nous pensons être actifs, mais en réalité, nous ne sommes pas actifs. Nous faisons des choses de façon la plus facile. Encore une fois, nous faisons des choix qui sont peut-être faciles, mais qui ne sont pas les meilleurs. Et le Christ a dit, verset 24, voilà une vérité qui peut choquer certaines personnes. Il dit, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a déjà 10 mines. Et les disciples n'ont pas compris cela. Mais pourquoi est-ce que le Christ donne 10 mines à celui qui a déjà 10 mines, alors que celui-ci n'a plus rien? Eh bien, c'est ça. Autrement dit, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, si vous avez reçu la connaissance, la compréhension, si vous savez ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, le Christ vous donnera davantage parce que vous pouvez produire davantage. Mais si vous cachez votre mine, vos talents, dans un linge, je sais, dans ce cas-là, à quoi bon de vous donner des mines additionnelles? Parce que vous les mettrez à nouveau dans un linge. Le Christ veut que nous puissions produire un bon travail, un fruit, des fruits si vous voulez. Voilà pourquoi il a dit, verset 26, toujours Luc 19, ça, c'est encore une autre vérité qui se révèle. Il dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà un principe. Voilà un choix que Dieu a fait. Voilà une décision prise par lui. Et c'est la bonne décision parce que Dieu a toujours la bonne réponse et il est toujours sûr de donner à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Autrement dit, Dieu, si vous donne une mission, il est sûr que vous pouvez vous remplir cette mission. Il en est absolument certain, vous devez aussi vous-même en être certain. C'est intéressant car souvent dans mes sermons, je parle du premier couple parce que c'est là évidemment où l'humanité a commencé, où nos problèmes ont commencé, où je dirais, où nos solutions ont eu lieu. Le premier couple devait aussi prendre une décision. La décision de suivre entre le commandement divin, de ne pas toucher aux fruits défendus, ou bien d'agir à leur guise. Ils avaient tout. C'est ça qui est intéressant, parce qu'ils avaient tout. Écoutez, si j'ai tout, pourquoi est-ce que j'allais envier quelque chose d'autre? C'est ridicule, n'est-ce pas? J'ai tout ce qu'il me faut. Ils étaient heureux, ils étaient beaux, ils s'aimaient, ils avaient tous les fruits qu'on pouvait avoir. Et avec Dieu le Père et le Christ avec eux, autrement dit, qu'est-ce qu'il leur manquait? Satan, de par la permission divine, leur a montré, écoutez, oui, mais ça ne peut pas durer longtemps, vous savez, vous mourrez. Ce n'est pas ça que Dieu leur avait dit. Dieu a dit qu'ils mourraient si jamais ils transgressaient ses lois. Mais Satan a tordu cette vérité. Il a dit, voyez-vous, ce que vous avez là, ça ne va pas durer. Hein? Vous avez besoin de l'immortalité. Cette immortalité, c'est quelque chose que Dieu ne leur permettait pas, à moins qu'ils soient prêts. Voilà pourquoi ils ont succombé à la tentation de Satan. Ils ont transgressé. Le résultat, ils sont morts. La Bible dit 1 Jean chapitre 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est très simple. Le péché est la transgression de la loi. Sachez une chose par elle-même n'est pas un péché. Le péché, c'est le mauvais usage dont on fait de quelque chose. Ça, c'est important. Donc, dans les décisions que vous prenez, ayez cette vérité de base en tête. Prenez les héros, si vous voulez, ou bien les individus mentionnés dans Hébreux 11. Chacun d'eux devait prendre des décisions importantes. Question de vie et de mort. Chacun d'eux devait choisir entre la voie que Dieu avait tracée devant eux et la voie qui peut-être les libérait de leur d'un châtiment quelconque. Eh bien, ils ont pris, eux, la bonne décision. Ils ont pris, eux, la voie que Dieu avait choisie. Ils ont sacrifié leur vie, certes. Mais avec ce sacrifice temporaire, éphémère, ils auront un jour une récompense éternelle, la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ensuite, le Christ donne une parabole qui est aussi intéressante en ce qui concerne entendre la vérité, en ce qui concerne suivre les commandements de Dieu. Dans Matthieu 13, versets 18 à 23, il dit ceci. Vous donc, dit-il, écoutez ce que signifie la parabole du semeur, parce que le Christ avait donné cette parabole, les disciples ne comprenaient pas beaucoup. Le Christ avait mentionné quatre catégories. Dans la première, voyez-vous, il avait dit, la semence était tombée, l'homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, donc il l'a perdue. Ensuite, dans le deuxième exemple, le Christ a dit, la semence était tombée dans des endroits pierreux. Ce sont des gens qui entendent, qui reçoivent la parole avec joie. Et ensuite, dès qu'il y a des difficultés, une persécution, ils abandonnent. Je paraphrase, vous n'avez qu'à dire. Donc, ça n'a pas pris non plus de racines. Ensuite, il parle au verset 21, celui qui a reçu la semence dans les épines. C'est quoi les épines ? Les soucis du siècle, et nous en avons. Vous en faites, et moi j'en fais du souci. Donc, la séduction des richesses, les responsabilités matérielles dans la vie, tout ça, ça nous étouffe. Et rend cette semence, comme il dit, infructueuse. Et en fin de compte, au verset 23, Matthieu 13, le Christ donne le bon exemple. J'espère que c'est vous, j'espère que c'est moi. J'espère que c'est nous qui avons pris la bonne décision et que nous la suivons. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole que Dieu nous prononce dans la Bible, qui la comprend et il porte du fruit, comme nous avons vu, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà. Où nous en sommes. Voilà ce que c'est qu'un choix. Voilà comment vous et moi, nous pouvons vraiment avancer dans la vie. Comme j'ai dit, nous sommes tous humains, nous faisons des fautes. Mais lorsqu'il s'agit d'une décision importante, prenez le temps et ne soyez pas pressés. Certes, si vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, conseillez-les, voir ce qu'ils vont dire, mais soyez sûr qu'ils ne sont pas guidés par leur amitié envers vous, pas du tout. Avant toute chose, adressez-vous à Dieu. Avant toute chose, laissez le Christ vous guider. Le Christ vous guidera, le Christ l'a promis. Parfois, vous savez, mes frères et mes sœurs, parfois, nous avons pris une bonne décision. Nous sommes tout à fait certains que c'est la bonne décision. Et nous ne voulons plus changer parce que nous prenons un engagement. Lorsque vous prenez un engagement selon la Bible, vous le respectez. J'ai devant moi, je ne vais pas lire le tout parce que c'est un long passage, mais dans l'Ancien Testament, il y a l'exemple de deux prophètes. 1 Roi, chapitre 13. Prenez le temps de lire. Ce sont deux prophètes. L'un des prophètes avait reçu une mission de la part de Dieu. Dieu lui avait dit, écoute, voilà une mission, tu vas accomplir cette mission. Je vais voir si je peux le trouver ici. Voilà, je prends le verset 8, 1 Roi chapitre 13. Voilà la mission que ce premier prophète avait reçue. Il dit, l'homme de Dieu a dit, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain avec toi, je ne boirai point d'eau dans ce lieu, parce qu'il avait pris un engagement. Il s'agit là de l'histoire de ce prophète qui avait une mission. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre. Au verset 11 de ce même chapitre, 1 Roi 13. Or, il y avait un vieux prophète dans le même endroit qui demeurait à Bethel. Ensuite, ses fils lui dirent ce qui s'est passé. Alors, ce prophète dit, où est-il allé, ce premier prophète? Par quel chemin? Verset 12. Alors, il voit, il se met à sa recherche. Il dit, scellez-moi. Il alla près de Dieu, verset 14. Il trouva l'homme, le premier prophète. Je saute les versets, mais vous n'avez qu'à lire le tout. Il dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Puis le premier prophète dit, oui, je le suis. Alors, ce deuxième prophète dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Notez-le. Le premier prophète avait reçu une mission de Dieu. Il fallait absolument qu'il accomplisse sa mission et qu'il n'aille pas s'arrêter, qu'il ne mange rien, qu'il ne boive rien, jusqu'à ce qu'il accomplisse. Il le savait. Il l'a répété plusieurs fois. Mais voilà que il y a un autre prophète qui arrive. Et que cet autre prophète lui tente. Le tente dans ce sens que il dit, écoute, moi aussi, je suis prophète. Verset 18. Ah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'engagement que le premier prophète avait pris? Il savait ce que Dieu lui avait dit. Pourquoi se laisser convaincre par quelqu'un d'autre? Celui-ci lui dit, verset 18, « Moi aussi, je suis prophète, comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait, déclare la Bible. Voilà nos tentations. Voilà la façon dont nous nous comportons. Lisez le reste du récit, ça vaut la peine. Et maintenant, examinez-vous vous-même. Combien de fois, lorsque vous avez pris un engagement envers Dieu, vous vous en détournez parce que quelqu'un d'autre vous ment, parce que quelque chose vous attire un peu loin, parce que vous avez une excuse. Autrement dit, vous prenez une mauvaise décision alors que vous aviez pris dès le commencement une bonne décision, que vous abandonnez parce que quelque chose d'autre vous plaise davantage. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, une fois que vous avez été baptisé, une fois que vous êtes sur le bon chemin, y a-t-il moyen de vous faire échouer, de vous faire tomber? Dieu seul peut vous le dire, mais tout dépend de vous, de vous-même. Tout ce que je peux vous dire, nous avons eu des cas dans l'Église de Dieu, des gens qui sont venus et qui sont partis. Dieu seul les juge. S'ils étaient vraiment convertis ou non, Dieu seul le sait. Je prie qu'ils ne le soient pas, qu'ils ne fussent pas convertis. Mais regardez ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 7. Et ça, c'est important. Matthieu 7, versets 21 à 23. Le Christ dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » C'est notre récompense, le royaume des cieux. Donc, vous priez, vous faites ce que Dieu vous dit, vous observez ses commandements, vous dites, « Seigneur, Seigneur, le Christ dit, ces gens-là n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais, voilà, celui-là, seul qui fait la volonté de Dieu, de mon Père. Voilà la différence. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu dans votre vie, en toutes choses? Le Christ ajoute, Matthieu 7, 21, Et alors plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, enseigné par ton nom, parlé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé même des démons par ton nom ?» Ça peut être un ministre, qu'importe. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Mais vous, tout ça, ce n'est pas important. Tout ce qui compte, comme le Christ a dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Verset 23, « Vous qui commettez l'iniquité. » Autrement dit, vous qui vous détournez de Dieu. Vous qui transgressez des lois divines. C'est simple. La Bible est très simple, franchement parlant. Mais ce qui est difficile, c'est de mettre en pratique ces commandements, car ces commandements ne sont pas toujours faciles en ce qui concerne notre nature humaine. Ensuite, le Christ continue par un parabole et que je laisserai tomber à cause du temps, mais ce qu'il donne, au moins, laissez-moi vous donner le sens. Il dit, il faut que notre vie soit fondée sur le Christ. Il faut que notre conversion soit vraiment fondée sur la parole de Dieu. Au verset 24, laissez-moi citer ça. Il dit, c'est pourquoi, dit-il, quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est le Christ. Ce que je vous dis maintenant, ce sont les paroles de Christ. Vous les entendez, vous les mettez en pratique. Dans ce cas-là, vous êtes bâti. Vous avez bâti votre maison sur le roc. Qu'est-ce qui se passe? La pluie est tombée, verset 25. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée. Non, mes frères et mes sœurs, vous ne devez pas tomber. Si vous avez ce fondement-là, vous ne pouvez pas tomber. Parce qu'elle était fondée sur le roc, sur le Christ. Par contre, verset 26, « Mais celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, la différence, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur quoi ? Pas sur le roc, sur le sable. Essayez de voir, les enfants savent ce que c'est que bâtir une maison sur le sable. Et voilà, nous ne sommes pas des enfants, nous autres adultes, et pourtant nous bâtissons parfois notre maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, on bâtit cette maison, elle est tombée. Ensuite le Christ ajoute, sa ruine a été grande. Autrement dit, mes frères et mes sœurs, vos décisions, les paroles que vous prononcez, ne doivent jamais être fondées sur des sentiments égoïstes, sur la vanité, sur l'envie, sur la jalousie, sur les désirs de la chair. Voyez-vous, souvent, vous prenez une décision parce que la chose que vous désirez vous plaît. C'est bon. Mais est-ce que ça peut faire du tort à quelqu'un d'autre? La chose que vous voulez avoir, peut-être vous la méritez, je ne sais pas. Mais est-ce que cela prive quelqu'un d'autre de ses droits? Réfléchissez. Laissez-moi donner un petit exemple. Là encore, je vais citer l'exemple, pas nécessairement citer le tout. Prenez Abraham. Abraham était un serviteur de Dieu. Abraham a été choisi par Dieu, et qui sera dans le royaume, évidemment, et qui est le père des croyants, comme la Bible l'appelle. Abraham était béni. Dieu l'a appelé, alors qu'Abraham était encore âgé. Abraham a dit, bon, il est parti comme Dieu lui avait dit. Et comme Dieu l'avait promis, Abraham est devenu riche, très riche. Et son neveu Lot est aussi devenu riche. Alors, ils sont allés en Égypte, les deux, et voilà que, comme je dis, ils avaient des troupeaux en argent en abondance. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, quand nous sommes trop riches, ou très riches, je ne sais, alors il y a toujours des jalousies et des difficultés. Alors que les serviteurs d'Abraham et de Lot étaient ensemble, ils commencent à avoir des difficultés ensemble. Et comment ça se relaie? Verset 6, verset 7. Verset 7, laissez-moi citer. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot. Alors, nous allons voir maintenant la sagesse d'Abraham. Nous allons voir son attitude. Avait-il raison? Avait-il tort? L'un ou l'autre? Regardez-moi l'attitude d'Abraham. Abraham dit à Lot. N'oubliez pas qu'Abraham, c'était le patriarche principal. C'est Abraham que Dieu avait appelé, premièrement. Abraham dit, regardez voir le choix qu'il laisse à Lot. Qu'il n'y ait point de conflit entre toi et moi, je te prie. Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Entre tes bergers et les miens. Nous sommes, dit-il, frères. Rappelez-vous cette phrase, nous sommes frères. Votre prochain est votre frère, si vous deux vous êtes convertis. Il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi, verset 9, Genèse 13. Il aurait pu choisir. Abraham n'a pas choisi. Il laisse à Lot la liberté de choisir. Voilà une décision qu'il prend. Ce n'est pas la voie la plus facile. Ce n'est pas la voie la plus agréable. Mais il donne le choix à Lot. Il dit, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà une grande décision à prendre. Abraham avait le droit de faire le premier choix. Vraiment, je dirais que humainement parlant, il avait tout le droit. Et Dieu lui aurait accordé ce qu'Abraham avait demandé. Mais Abraham a choisi non pas la voie de l'égoïsme, mais de dévouement, que l'autre est la meilleure partie. C'est ce qui s'est passé. Verset 10. C'est intéressant lorsque vous lisez la Bible et ensuite vous pouvez voir ce qui s'est passé. L'autre regarde, verset 10, Genèse 13, il voit la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Autrement dit, c'est un paradis, pour ainsi dire. Et avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, évidemment. Alors, Lot, verset 11, choisit pour lui la plaine du Jourdain. Il a pris la meilleure partie. Il a pris le meilleur terrain. Il s'avança donc vers l'Orient. Ainsi, les deux se séparèrent. Abraham habite dans le pays des Cananéens. Qu'est-ce qui se passe? Les ailes restent. Ce pays que Abraham avait choisi a été béni avec le temps. Et le pays que Lot avait choisi a été détruit. Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas que c'est intéressant? Lisez le reste, je répète, ça vaut la peine. Voyez la décision que les enfants d'Israël ont prise lorsque Dieu leur a donné les 10 commandements. Les 10 commandements constituent la base de notre conversion. Ils nous montrent comment vraiment faire le bon choix comme Abraham a fait, comme ne pas faire du tort à notre prochain, comme être sûr que nos décisions, les décisions que nous prenons, ne font pas du tort à notre prochain. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, voyez l'attitude des gens. Ils entendent la voix de Dieu, et ils ont peur. Ils disent à Moïse, au verset 27, Deutéronome 5, « Écoute, approche-toi toi-même de Dieu, écoute tout ce que Dieu te dira, tu nous rapporteras, que ce soit toi et non pas Dieu. » Et ensuite, ils ont fait une promesse. Ils ont dit, nous l'écouterons et nous le ferons. Cette phrase, au verset 27, voilà un danger. Voilà votre vie et la mienne. Parfois, nous faisons une promesse et ensuite, nous la laissons tomber. Si les enfants d'Israël avaient tenu leur parole, s'ils avaient vraiment écouté l'Éternel, et fait ce que l'Éternel dit, nous ne serions pas aujourd'hui où nous en sommes aujourd'hui. C'est la même histoire pour vous et pour moi. Si nous avons pris l'engagement d'être dans l'Église de Dieu, d'être baptisés, d'avoir reçu le Saint-Esprit, aucun obstacle, aucune tribulation, aucune persécution, rien ne doit nous séparer de notre engagement. Et ça, c'est la chose la plus importante. Malheureusement, ce n'est pas ainsi. Malheureusement, comme je dis, certains qui viennent, qui se font baptiser et qui ne prennent pas les choses au sérieux. Là encore, prenez le temps de lire ce que le Christ dit dans Matthieu chapitre 13 pour vous montrer le prix de cette promesse du royaume de Dieu. Matthieu 13, verset 44. Le Christ dit, le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. Un trésor. Il dit, l'homme qui l'a trouvé, le cache dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, tout, et achète ce champ. C'est une parabole. Autrement dit, il n'y a rien qui doit l'empêcher de vouloir acquérir ce champ. Et il répète, le royaume des cieux, dit-il, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Quoi? Il a trouvé, verset 46, une perle de grand prix. Elle a vendu tout. Notez-le, il a vendu tout, tout ce qu'il avait pour l'acheter. Voilà le prix du royaume de Dieu. Commencez-vous à comprendre. Je n'aurai pas le temps de finir, mais vous n'avez qu'à penser à ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé au commencement du choix, des décisions. Et Dieu nous met tous, comme il a mis nos ancêtres devant un choix important. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Voyez, il a dit à nos ancêtres exactement ce qui va se passer s'ils obéissent ou bien s'ils n'obéissent pas à ses ordres. Tout comme aujourd'hui à nous, il dit ce qui va se passer si nous suivons l'exemple de nos ancêtres ou bien la voie que Dieu a tracée devant nous. Il a dit, je cite Deutéronome 30, verset 15, il dit, « Je mets devant toi la vie et le bien. C'est à vous, c'est à moi. La mort est la mort. La mort est le mal. » Ensuite, en tant qu'un père qui nous aime, il nous montre le chemin à suivre. Il dit, « Je te prescris aujourd'hui, dit-il, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances. Voyez-vous, voilà la voie à suivre, voilà la bonne décision à prendre, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Voilà, c'est simple. Mais dit-il, si ton cœur, verset 17, se détourne, alors dit-il, verset 18, Deutéronome 30, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Regardez où nous en sommes aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, en ce bas monde. Regardez la situation de ce monde. Regardez ces guerres, cette pollution, ces calamités, ces choses horribles qui se perpètrent en ce bas monde. C'est la voie que l'humanité a choisie. Il dit, vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Et ensuite, voyez-vous, Dieu nous aime. Dieu nous montre la voie. Regardez voir comment il termine cette instruction. Au verset 19, Deutéronome 30. J'en prends aujourd'hui, dit-il, à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, il répète, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Il vous montre ce qu'il faut faire. Choisis la vie afin que tu vives et que tu prospères. Et ensuite, il répète, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Voyez-vous, c'est là où nous en sommes. Ici, en ce bas monde, nous avons tous un choix à faire. Dans les petites choses et dans les grandes choses. De ce choix dépend non pas seulement notre bonheur, mais aussi notre avenir. Non pas seulement notre avenir temporaire, mais aussi notre avenir éternel. Ne suivez pas l'exemple. Là, je vous donne, vous n'avez qu'à lire vous-même, l'exemple que le Christ nous donne dans Luc, chapitre 9. Il y avait des gens que Dieu avait appelés, mais chacun a trouvé une excuse pour ne pas suivre le Christ. Vos excuses ne sont pas bonnes. Les excuses que vous donnez vous-même pour ne pas obéir à Dieu ou bien ne pas suivre le Christ ne valent pas grand-chose. Donc, dans Luc 9, versets 57 à 62, lisez-les. Le Christ donne des exemples des gens qui voulaient suivre le Christ, mais qui ont chacun cherché une excuse pour ne pas respecter leurs paroles ou leurs désirs. Mes frères et mes sœurs, dans ce sermon, j'ai parlé d'une décision. J'ai parlé d'un engagement. Ça peut être dans des petites choses ou dans des grandes. J'ai parlé des paroles que vous prononcez. Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant de changer une décision. Et lorsque vous avez pris une décision, après de mûres réflexions, après des prières ardentes, alors dans ce cas-là, que rien ne vous empêche de suivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire finale.